Bonjour.
Voilà, je suis Mickaël Seban et je vous remercie Laura Steinwald de cette initiative à Academ. Alors le thème de cette année était c'était les gens du livre, les bons et les mauvais, les héros, les méchants, les saints, les fous. Comme tout le monde sait, la Torah, c'est le livre. Et ce livre est un livre dans lequel, s'il manque une lettre, il est incomplet. C'est-à-dire, si on a mal compris une lettre, si on orthographie mal un mot, il manque quelque chose à ce livre. Donc, il ne s'agit pas d'une compilation de séries, mais d'un tout qui est imbriqué comme un tissu. Comme un tissu, dira le Zohar, comme un vêtement avec tramé de chaînes et de fils. Et ce qu'il faut, c'est percevoir ce qu'il y a à l'intérieur de ce vêtement, percevoir son intériorité. Pour ça, puisqu'il faut bien tirer un fil, j'ai envie aujourd'hui de tirer avec vous un fil qui est d'abord le fil de versets, puisque les versets sont liés entre eux. Et c'est un fil qui lie le haut et le bas, et qui est les liens qui attachent le haut et le bas, et plus précisément d'une histoire qui est en filigrane dans la Torah, qui n'est pas d'abord présentée comme ça, qui est l'histoire d'anges. On va voir pourquoi ils sont des anges, et qui quelque part rentrent dans le récit biblique. Ils rentrent dans le récit biblique alors que le récit biblique devrait être simplement le récit de Dieu et des hommes. Et cette histoire prend sa racine dès le début de la création, dès le début de Bereshit. Ce fameux Bereshit qui, comme l'indique Rashi, n'est pas du tout le début, mais c'est le commencement, et c'est-à-dire le principe même de la création et de ses acteurs. Dieu et les anges et les hommes, et les anges qui tombent et qui font tomber. Alors, l'histoire commence, si on a un livre devant soi, l'histoire commence dans la Bible, dans la première section, dans la section de Béréchit, dans le livre de la Genèse, au chapitre 6. De quoi il s'agit? L'humanité a déjà bien commencé et on est à la période qu'on va appeler la période antédiluvienne, puisqu'elle est avant le déluge. Et tout un tas de dysfonctionnements de la création, de choses très difficiles et que la Torah ne décrit pas vraiment clairement, vont amener à ce déluge. Et donc au début du chapitre 6, on a deux versets qui sont très énigmatiques, comme beaucoup de versets, mais et qui vont nous raconter en filigrane une histoire. Donc il s'agit dans le chapitre 6 du verset 2 et du verset 4. On va sauter le verset 3 parce qu'il est aussi très complexe. Et la Torah nous dit, Vayir ou béné Elohim, et ils virent les enfants de A Elohim. On va savoir qui c'est, ou on ne sait pas en tout cas. Et Benot Adam, les filles de l'homme, les filles de Adam littéralement, c'est-à-dire Adam du premier homme, qui tovot ena, car elles sont bonnes, mais on va entendre qu'elles sont belles, qu'elles sont désirables, qu'elles ont quelque chose de particulier. Et na voici, Vaikru la'em nashim, et ils ont pris des femmes, mikol asher bacharu, de tout ce qu'ils ont choisi. Évidemment, les commentateurs verront que c'est le début de la décadence du déluge, parce que effectivement, maintenant, si ces femmes sont prises sans aucune distinction, est-ce qu'elles sont jeunes mariés, pas mariés, promis, célibataires, etc. Et même parmi toute la création, on entendra le début effectivement de la décadence qui a amené au châtiment du déluge. Deux versets plus tard, dans le 6-4, qui est le verset qui va nous occuper aujourd'hui, Anéphilim ayou ba'aretz. Pour le moment, on ne va pas traduire, mais il y a marqué Anéphilim. Les Néphilim étaient dans la terre. Pour l'hébraïsant, et c'est très important parce que tout dans la Torah se passe dans les mots, parce que tout est déjà dans les mots. pour les Brahivans, cette histoire de Néphilim, on entend effectivement la racine Nun Pe Lamed, ça veut dire celui qui tombe. Simplement, si on avait voulu dire ceux qui sont tombés, ou ceux qui tombent, on aurait dit un Noflim. Or là, ce n'est pas ce qui a marqué. Donc on sent déjà des personnages qu'on ne connaît pas, on sent une chute. Et cette chute, on ne sait pas trop comment la définir. Alors, on va voir ce verset. Donc, un Néphilim, effectivement, ce sont des personnages. Ayoubares, ils étaient dans la terre. Bayamimaem, à cette époque-là. On va arrêter le verset ici. Les commentateurs classiques, dont Rashi, vont tout de suite pointer une anomalie grammaticale en disant « Al-Shem shenaflu vehipilu et haolam » par le fait qu'ils sont tombés, donc au passé, et ils ont fait tomber le monde. Comme si les grammairiens diront qu'on ne sait pas si c'est un substantif ou un adjectif. Et il est un peu compliqué ce substantif ou cet adjectif parce qu'on ne sait pas c'est est-ce qu'ils tombent ou est-ce qu'ils font tomber. Les grammairiens plus précis comme Eben Ezra et le Radak entendront plutôt le fait qu'ils font tomber. Ils font tomber et ils ont fait tomber des hommes. Eux-mêmes, ils sont tombés et ils ont fait tomber des hommes. Qui sont-ils? On ne dit rien du tout. Les commentateurs, pour le moment, sur le présent, Rashi dit rien. Rashi dit simplement, et ce terme est un synonyme des géants. C'est un synonyme des géants, ce qu'on appelle les Anakim. Mais notons très bien cette histoire entre ils tombent et ils font tomber. La difficulté étant qu'effectivement que ce substantif ou cet adjectif est fondé sur le participe présent. Parce que tous les verbes en hébreu sont en général des participes présents. C'est-à-dire que c'est une action qui continue. Ils sont en train de tomber. Mais c'est tout. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? On ne sait pas. Alors, le verset forme un tout dans le Néphilim, Ayoubares, il était dans la terre, Bayamimaem, dans ces jours-là, Vega Macharechem, et aussi après, Asher Yavohu Bene Elohim, où sont venus les Bene Elohim, les enfants de Elohim qu'on a vu dans le verset plus haut. El Benot Adam, ils sont venus vers les filles de l'homme, Veyaldu Lahem et Mahagiborim, et ils ont enfant, et ils l'auront enfanté, à Giborim des forts, des costauds, à Sher et Meolam, qui sont de tout temps, Anshi Hashem, les gens du nom. Alors, tout d'un coup, on a dans ce verset, en collusion, les Néphilim, les Bene Elohim, les Giborim et les Anshi Hashem. Donc, cinq catégories de noms qui apparemment s'appliquent soit à cinq personnes différentes, ou soit c'est les mêmes auxquels on a donné cinq attributs différents. Rashi simplement dira que oui, effectivement, on va les retrouver. Et on va les retrouver plus tard. On les retrouvera quand? On va les retrouver dans les nombres, au moment des explorateurs. Et là-bas, il y a marqué « Vesham Rainu et Anéphilim ». Quand les explorateurs font le rapport d'exploration, ils disent « Oui, nous avons vu les Néphilim ». Ce sera les deux seules fois dans la Torah où ce mot apparaît, « Anéphilim ». Et on les a vus. Juste, si on veut être précis, le verset qui disait, notre verset 6.4, « Anéphilim, Ayoubares et Néphilim étaient dans la terre, Bayamim Ahem, à cette époque-là », et aussi après, et bien disant, oui, après, on les retrouvera plus tard. Moïse a rédigé la Torah, et quand il a rédigé l'histoire des Néphilim, il a dit oui, il commence ici, et on les retrouvera plus tard dans le récit biblique. Et les explorateurs, effectivement, les ont vus. Et le verset là-bas dit, effectivement, Valshama et nous un Néphilim, et là-bas nous avons vu les Néphilim, les enfants de Anak, c'est-à-dire de ces géants, min anéphilim, de ces néphilim, et nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Vechena enu beine. Donc, qui sont ces néphilim? On n'en sait rien. On va les retrouver. Et on a l'impression que la Torah oscille entre plusieurs termes qui sont les néphilim, les anakim, les géants, les bénéa Elohim, les enfants de Elohim, Anshe Hashem, des gens de renom, ou des gens du nom, Anshe Hashem, les gens du nom. Dans Bamidbar, dans l'histoire de l'explorateur, Rashi va lâcher le morceau, mais pas avant. Et Rashi dit là-bas, Mibne Sham Chazai Ve'Azael, ce sont les fils de Sham Chazai Ve'Azael, qui sont tombés des cieux, chez Naflum et Nashamaim, Bimé Dor Enosh, dans la génération antédiluvienne, la génération de Enosh. D'où sort-il? On ne sait pas. C'est quoi ces noms? On n'en sait rien. Rashi renvoie, parce que Rashi, évidemment, ne puise ses textes dans des sources antérieures, renvoie un texte du Talmud dans Yoma qui nous parle de ce sacrifice qu'on le jour de Kippour à Azazel. Effectivement, il y avait deux animaux, un qui était sacrifié au temple et un qui allait à Azazel dans ce fameux désert perdu. Et là-bas, la Gemara, succinctement en deux lignes, dit que ce sacrifice de Azazel est là pour réparer la faute de Uza ve'Azael, de Uza ve'Azael. Donc on avait des Néphilim, des Bnei Anakim, des Bnei Elohim, des géants, des tombés, des tombants, de ceux qui font tomber, et tout d'un coup maintenant on a des noms. Et ces noms ne coïncident pas. Shamchazai, Azael, Uziel, Uzel, Uza. Le Targum Yonatan, qui est un commentaire et une traduction en araméen, les deux sont ensemble, va donner une explication simple qui va maintenant coïncider en disant que ce sont des gens qui sont tombés des cieux. Et ils étaient sur la terre à cette époque-là. Et eux aussi, ce sont eux qui ont été attirés par les femmes des hommes, et ils ont commencé à participer, non pas à initier, ils ont commencé à participer à la décadence humaine. Mais évidemment, ils l'ont encouragé. Il faudra simplement le midrash d'un Pirkei de Rabbi Eliezer pour dire clairement que ce terme de Béné à Elohim, ces enfants de à Elohim, qui pourrait très bien désigner dans la Bible des gens importants, puisqu'à Elohim c'est évidemment un nom divin, mais ça veut dire aussi par exemple des juges ou des gens importants, il va pointer Béné à Elohim. On est bien en train de parler d'anges. Ce sont des anges. Ve'amelachim nikrahu bene Elohim, dit Pirkei de Rabbi Eliezer. Ce très beau midrash. Les anges, on les appelle bene Elohim. Et ils étaient saints et ne le sont plus. Alors on est en train de nous parler des anges. Alors les anges, c'est tout de suite très... Ça interpelle le lecteur biblique, les anges. Mais c'est quoi un ange? Pourquoi est-ce qu'effectivement, tout d'un coup, on vient nous parler d'anges? Pour le lecteur de la Bible, des anges, il y en a partout. Quand on regarde bien, le récit de la Torah, des prophètes et des Écritures est parsemé d'anges. Ce sont les anges qui garde le jardin d'Éden, les anges qu'Abraham va inviter à manger, les anges qui vont accompagner Eliezer, l'envoyé d'Abraham, les anges qui vont annoncer à Manoach que sa femme aura un enfant. Il y a des anges partout dans la Bible. Mais maintenant, c'est quoi ces anges? De quoi ça parle? C'est quoi un ange? Alors, même si elle n'est plus étudiée beaucoup de nos jours, il y a une grande, très grande littérature rabbinique sur les anges. Il y a des livres entiers. Il y a des traités. Le Talmud aussi est peuplé d'anges. Il y a des traités et qui vont poser beaucoup de questions. D'abord, c'est quoi un ange? Et des livres, par exemple, très connus, comme le livre de Raziel à Malach, vont avoir des classifications d'anges, des noms des anges. On va les nommer, on va leur donner des catégories, etc. Maïmonide, le grand Maïmonide, dans le Mishneh Torah, va donner une classification d'anges. Il va dire, il y a 10 types d'anges. Bon, on va pas tous les citer, mais en tout cas, nos Béné Elohim font partie de ces types d'anges. Donc, Cordovero, Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak, va écrire un livre entier sur les anges. Et on veut comprendre c'est quoi un ange. Donc c'est assez complexe, c'est quoi un ange, qu'est-ce qu'il fait, d'où il vient, qu'est-ce qu'il peut faire sur Terre, c'est quoi sa fonction, c'est quoi sa mission, à quoi il sert. C'est un sujet très complexe, mais on peut résumer en quelques termes en disant d'abord qu'effectivement ce sont des créatures divines. Ce sont des créatures créées par Dieu, et elles ont été créées avant que l'homme soit créé. Avant de créer l'homme, Dieu crée des anges. Et ces anges, ils ont des particularités, ce sont des êtres, ils peuvent parler, qu'on va voir des dialogues entre Dieu et les hommes. Ils sont des, comme l'étymologie l'indique en hébreu, ils sont des émissaires, ils sont envoyés, ils peuvent faire des choses. Mais la littérature kabbalistique sur les anges va se poser beaucoup de problèmes, c'est-à-dire un ange, comment ça descend sur Terre? Ça n'a pas de corps. Un ange, Abraham, il leur donne à manger, il mange. Et un ange, si ça monte, ça redescend. Et si ça redescend, ça monte. Comment ça se fait? Comment ça se transforme le corps d'un ange? On nous raconte des histoires, mais les kabbalistes sont des gens assez rigoureux, quoi. À dire comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne une créature de feu? Ce sera la définition que donnera le Ramak. Ce sont des créatures de feu. Et ces créatures de feu descendent sur Terre, prennent un corps, peuvent parler avec les hommes et peuvent remonter. Les lecteurs de la Bible verront que même c'est possible à des hommes de devenir anges. Le prophète Élie deviendra un ange. Énoch, le fameux Énoch, au début de la Bible, sera un ange. C'est un homme qui remonte au ciel sans passer par la décomposition du corps. Son corps se transforme. Et il a un corps angélique. Le Ramak, dans ce livre sur Drushé HaMelachim et dans le Pardes Rimonim, le verger des grenades, expliquera qu'attention, les anges sont très complexes. Parce que de la même manière que le monde a été créé avec le bien et le mal, il y a aussi des anges du bon côté et du mauvais côté. Il y a des anges du bien et il y a des anges du mal. On connaît tous l'ange de la mort. L'ange de la mort, il est là pour tuer. C'est lui auquel est donnée la mission de tuer les hommes. Avec son sabre, dira le Zohar. Donc, un ange a un parcours. Évidemment, un ange n'est pas un homme, malheureusement. Un ange n'est pas un homme, mais un ange, de par sa proximité et de par sa date de création, est antérieur à l'homme. Donc, on va retrouver dans cette classification des anges, on va retrouver effectivement nos anges-là. Donc, pour le moment, les noms ne sont pas tout à fait établis. Aza, Uzel, Aza, Zael, Samtrazaï. On a l'impression que le Midrash joue sur plusieurs ou à plusieurs traditions ou à plusieurs éléments sur cette histoire des anges. Mais en tout cas, un ange, ça parle. Un ange, ça peut même parler avec Dieu. C'est ça. Je disais que la distinction entre la kabbale pratique et la kabbale théorique, c'est le fait d'invoquer des anges. C'est pas du tout entre une kabbale philosophique et une kabbale méditative. C'est une kabbale qui a affaire avec les anges de façon directe ou pas. Juste le Ramak dira, hein, Cordovero dira que de toutes les manières, étudier les anges, ça fait partie de l'étude de la kabbale. Avoir affaire avec les anges, qui va devenir quelque chose de beaucoup plus compliqué, ça effectivement, c'est on n'y touche pas. Il va longtemps développer. Mais en tout cas, étudier ce sujet, c'est quelque chose de très important. Parce que ça vous apprend beaucoup, et c'est comme ça. Alors, revenons à notre histoire de ces anges-là. Et on va trouver effectivement, dans des midrashim un peu non conventionnels ou dans des fins de page, plusieurs versions de cette histoire. Alors, j'en ai sélectionné trois, on va essayer de les voir ensemble. Et la première, c'est dans Maseret Kala qui nous dit, voilà, Asa et Azaël, ils ont fauté par leurs yeux. Rappelez-vous effectivement le début du verset Vayirou ben Elohim, ils ont vu. Ils ont vu les femmes, les filles de l'homme, et ils ont fauté avec les filles des hommes. Effectivement, comme il est dit, Vayirou ben Elohim, ils ont vu ben Elohim, les filles de l'homme. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés là? Donc le Midrash tout de suite dit, mais il faut revenir à la création. Quand Dieu a créé l'homme, les anges sont venus et ont dit, mais quel est cet homme pour que tu le mentionnes? Ma enosh ki tiskereno. Pourquoi on a besoin des hommes? On a déjà une création, il y a nous, il y a toi, il y a déjà des mondes. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un homme maintenant? Amarin Kouchabelchou, le samedi soit-il radi, attention, vous êtes, si vous fautez, vous fauterez pire que l'homme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ben voilà, vous n'avez pas de libre arbitre, parce que l'homme là, l'homme est plus confronté au mal que vous. Et bien maintenant, je vais vous donner le libre arbitre. Je vais vous donner la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Juste pour saisir, un ange peut faire des choses dites mauvaises, comme l'ange de la mort, mais il n'a pas ce choix de libre arbitre entre le bien et le mal. Il n'est pas confronté à cette question de choix et d'opération dans la création. Et donc, les anges n'avaient pas ça. Et c'est pour ça que maintenant, Dieu les fait descendre sur terre, et là, effectivement, confrontés au libre arbitre, ils fautent aussi comme les hommes. Bon, premier midrash, on comprend effectivement que ils veulent se confronter à l'homme et il y a un dialogue avec Dieu. Il y a une autre version qui va devenir plus intéressante dans l'écoute revenue. Au moment où Béchach, Ibikesh, Akadosh, Baruchou, Livro et Adam, au moment où le Saint-Béni soit-il, a voulu créer l'homme, et il a dit faisons l'homme. Ce fameux faisons l'homme du début de la création, on a assez Adam. Faisons l'homme. Des anges du côté droit sont venus, et ils ont dit tout ce que tu feras, nous le ferons aussi. Donc, effectivement, c'est bien de créer l'homme. Et le nous de la création, le nous de nous faisons l'homme, c'est Dieu et les anges. Dieu demande aux anges leur accord, non pas parce que, comme dira le Zohar, pour que tout le monde soit à l'unisson, comme un patron demande à ses employés s'ils sont d'accord, et ils font l'homme. Et donc ces anges qui ont accepté la création de l'homme, le Midrash dit, ils sont du côté de Joseph. Et Asa et Azaël, autre orthographe, deux anges, et d'autres anges qui les suivaient sont venus et ont dit non, ma enoj qui t'esquire nous, c'est quoi l'homme, pourquoi tu t'en souviennes? Et ces anges-là sont en regard des frères de Joseph. Et de là est venue la haine entre Joseph et ses frères. De la discorde des anges naît la discorde des hommes. les anges se disputent. Donc il y a des anges du côté droit, comme dit le Midrash, mais Sitra Dehimina, et les anges de l'autre côté se disputent pour savoir est-ce qu'on crée l'homme. Pour ceux qui connaissent l'histoire biblique, tout de suite le Midrash nous dit beaucoup de choses, parce que Joseph et ses frères, c'est vrai que c'est compliqué, mais ils vont se réconcilier. Donc on pointe tout de suite qu'il y aura peut-être une réconciliation des anges. Troisième version, dans le Kut Shimoni, Shalut Talmidav et Rav Yosef Mawazael. Les élèves de Rabbi aussi lui ont posé la question et lui ont dit, qui est ce Azael? Donc maintenant ici, il ne s'agit que d'un, Azael. Et ils lui ont dit, voilà, puisque la génération du déluge a commencé à faire de l'idolâtrie, Dieu était assez peiné. Et tout de suite, deux anges, qui sont Sham Chazaï et Azael, donc selon la version de Rashi, selon la version de Targum, et on dit, Dieu, mais nous on t'avait déjà dit, quand tu as créé le monde, que l'homme a les fauté. Or maintenant, il faute, donc on avait raison. Alors il a dit, mais sachez que si vous étiez à leur place, vous auriez fauté encore plus. Alors, c'est intéressant parce que la réponse de Dieu, c'est pas de dire oui, effectivement, l'homme faute. Non, même s'il faute, effectivement, ça fait partie de la création parce que la faute peut être réparée. Simplement, vous, vous comprenez pas cette histoire-là. Donc, vous allez descendre sur Terre et sur Terre, vous allez voir qu'effectivement, vous fauterez plus. Donc voilà à peu près ce que nous donne le Midrash à cette histoire, mais il y a beaucoup de zones d'ombre. On ne sait pas vraiment c'est quoi cette accusation, comment elle se passe, de quoi il s'agit. On n'a pas réglé le problème des noms et on ne voit pas vraiment, mis à part la petite histoire de anges qui se disent oui, mais on est jaloux de l'homme, une espèce de jalousie entre les anges et les hommes. Qu'est-ce qu'elle en est? On a simplement progressé en disant que il y avait plusieurs types d'anges. Il y a des anges qui sont d'accord et des anges qui ne sont pas d'accord. Et on a un petit peu progressé en disant qu'ils vont fauter et ils vont fauter plus que l'homme. Mais la faute, c'est grand. Pourquoi fauter simplement sur cette histoire du féminin? Pourquoi est-ce qu'effectivement c'est Néphilim, selon le verset, il faute avec les femmes? On peut fauter sur d'autres choses. On a reproché beaucoup de choses à la génération du déluge. L'idolâtrie. Le meurtre, la corruption, le déni de justice. Alors pour ça, il faut le Zohar. Alors pour plusieurs raisons, parce que d'abord, c'est que alors que le Zohar est en général avare de mots, le Zohar, c'est cette histoire de ces anges, ne manque pas de références. Il y a plus d'une vingtaine de références et encore directes, sans compter les références indirectes, dans tout le Zohar, qui est consacré à cette question. Et dans plusieurs endroits du Zohar, qui se contredisent pas, qui en fin de compte font écho les uns à les autres, et qui vont reprendre cette histoire depuis le début. Et si on veut reprendre l'histoire depuis le début, ben il faut la reprendre depuis le début. C'est quoi le début? C'est la création. Ou plutôt la création de l'homme. Parce que si on crée, on crée pour l'homme. Créer, effectivement, on a déjà créé avant, si Dieu a créé des anges. Mais la question, c'est créer cet homme. Et effectivement, dans le verset qui parle de la création de l'homme, on a le « Naase Adam », « Nous ferons l'homme ». Tout le monde s'est posé des questions sur ce « Naase », Maïmonide, tous les grands penseurs juifs, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, ce « Naase » ? Alors, le Zohar va commencer à reprendre à cet élément-là. On va dire effectivement que ce sont les anges. Le Naasé, c'est Dieu et les anges. Dieu a voulu l'accord des anges pour créer l'homme. Et donc, on l'a créé ensemble. C'est-à-dire que les anges l'ont créé, mais il y avait une communion de pensée où, d'accord, cette histoire. Amar Léo Batar de Avou Yedid Ma'ava. Le Zohar pose tout de suite une question en disant, mais ces anges qui ont accepté la création de l'homme, ne savaient-ils pas que l'homme allait fauter? Notez que la faute, c'est l'échec de la création, de ce point de vue-là. Et le Zohar continue, Véloeb, mais de plus, Aza ve Azael. Ici, on a deux noms, Aza ve Azael. Le Zohar ne bougera pas de ces deux noms-là. Et avec la même orthographe, Aïn, Zain, Aleph pour un, Aïn, Zain, Aleph, Lamed pour l'autre. Et eux, ils ont accusé, à vous de me casser aller, et ils ont dit, au moment de Amar Shrinta, l'écoute, Berichuna Ase Adam, au moment où la résidence, ou la présence, ou la demeure divine, en tout cas le côté féminin du divin, a dit au Saint béni soit-il, faisons l'homme. Très subtil, c'était du Zohar. Le naasé, le faisons, c'est l'accord du masculin et du féminin. La création, c'est unir le masculin et le féminin. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la création de l'homme? C'est qu'effectivement, c'est le masculin et le féminin ensemble. La preuve, c'est que cet homme qui sera créé, il sera masculin et féminin, dos à dos. Il sera homme et femme. Et les anges disent, mais qu'est-ce que tu as besoin de créer cet homme-là? Pourquoi? Parce qu'il fautera avec le féminin qui est l'obscurité, alors que le masculin, c'est la lumière. Donc, si on suit bien le Zohar, la création de l'homme, c'est l'union et c'est l'alliance de la lumière et de l'obscurité, du masculin et du féminin. Et l'argumentation de ces anges, c'est qu'effectivement, ça ne peut pas se faire. On ne peut pas allier la lumière et l'obscurité. Les anges sont des êtres de lumière. On ne remet pas ça en question. Qu'il y ait dans le projet divin qui échappe aux anges une union de la lumière et de l'obscurité, du masculin et du féminin, c'est là que se pose ce qu'on appelle l'accusation. À ce moment-là, la résidence divine, c'est le féminin qui leur répond et qui leur dit « Par ce par quoi vous accusez, par cela vous tomberez. » D'où le verset « Ils ont vu les filles de l'homme et effectivement, ils ont fauté sur le féminin. » C'est-à-dire qu'ils ont fauté sur le féminin, ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi à mettre les deux éléments ensemble. Et donc, effectivement, c'est ça leur faute. Et donc, on les a fait tomber et on les a fait chuter. Amour, Havraya, Rabbi, Rabbi, Adacha, Azel, Azazel, Oavou, Mekashrin, Mimilouleoun. Si c'est comme ça, disent les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont raison. Ils ont raison. Pourquoi toute cette histoire? Ils ont complètement raison. L'unité de l'obscurité, de la lumière, de l'homme et de la femme, c'est tout le défi de l'humanité. On n'en est pas sorti. On n'arrive pas. On voit l'obscurité, le noir. On n'arrive pas à mettre ensemble le masculin, le féminin, l'unité. Et ils ont raison. Ils ont tout à fait raison. Pourquoi à ce point-là? Rabbi Shimon Bar Yochai va avoir une longue réponse qu'on va résumer. Mais il va dire d'abord, sachez que eux, quand ils vont fauter encore plus que l'homme. Parce que l'homme, il sent que cette chose doit se faire. Il sent que cette unité, elle doit arriver. Eux, ils sont complètement du côté de la division. Le Zohar va donner une autre version un peu plus loin. Il va dire, les élèves de Rabbi Shimon ont dit, voilà, effectivement, revenons à ce verset, c'est quoi cette accusation, ma enoch qui tiskereno? Alors on dit, voilà, effectivement, au moment où Saint béni soit-il a voulu créer l'homme, il a appelé des cohortes d'anges. C'est là le détail qui va nous retenir. Et une première cohorte d'anges est arrivée et ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, voilà, je veux créer l'homme. Ils ont dit, mais l'homme ne sert à rien. Un autre verset dans Tehilim. Le Saint béni soit-il a tendu son doigt et les a brûlés. Une deuxième cohorte d'anges est arrivée. Dieu leur a dit, qu'est-ce qui se passe? Nous voulons créer l'homme. Les anges ont dit, nous voulons créer l'homme. Et ils ont dit, ah, mais l'homme, maïnoch tiskireno. Dieu leur dit, si c'est comme ça, vous, vous allez descendre en bas. Première question très simple, c'est, il y a une première catégorie d'anges qui disent, ça sert à rien, il n'y a pas de problème, vous êtes mes créatures, donc moi je vais régler le problème, c'est, je vais vous ramener à ce que vous êtes, puisque votre racine c'est du feu, donc je vous ramène au feu, c'est pour ça qu'il les brûle. Mais une deuxième catégorie d'anges arrive et ils disent, voilà, l'homme va fauter. Dieu leur dit, mais je vais vous faire tomber. Et l'homme faute, effectivement, donc ils ont raison. Ils prévoient la faute de l'homme. Et l'homme faute, parce qu'il est libre, et qu'il est par arbitre. Et arrivent maintenant ces Asa et ces Azaël, et ils disent, voilà, nous avions raison. Et même conclusion du Zohar, Dieu a dit, si c'est comme ça, je vais vous faire tomber de votre degré, et vous tomberez plus bas que l'homme. Cette autre version du Zohar, elle nous donne deux éléments intéressants qu'il va falloir expliquer. La première, c'est que pourquoi est-ce que les premiers qui accusent, ils sont détruits, et pas ceux-là. Premier point, c'est la question que Cordovero va poser. Pourquoi finalement s'embarrasser de cette histoire? Ils tombent, ils sont sur terre. Et deuxièmement, on voit des filles dans le Zohar qui tombent deux fois. Ils tombent en descendant du ciel et ils tombent en fautant. Il y a chute et chute. Ils chutent deux fois. Bon. Et là, leur cas va devenir plus intéressant parce qu'on ne comprend pas maintenant qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de les garder, ces trucs-là, c'est des accusateurs? Il y en a plein, des gens qui ont voulu renier le projet divin, qu'il soit ange ou pas ange. Ça change pas grand-chose. Pourquoi c'est cet élément particulier de comme ça? Donc, on a besoin d'aller plus loin dans le Zohar. Et le Zohar dit comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Une fois qu'ils sont tombés, une fois qu'ils sont descendus, Kuchaberechu Hama de Achun Alma, Saint béni soit-il, il a vu qu'ils induisaient le monde dans la faute. Donc non seulement ils tombent du ciel, ils perdent, ils deviennent des anges qui deviennent humains, vous allez dire que c'est pas très grave que c'est déjà arrivé à des anges. Simplement ici, en étant sur terre, ils vont fauter et prendre aussi des caractéristiques humaines. Donc ils sont mi-ange, mi-homme. Et ils vont commencer à fauter et à faire fauter. Kachar l'un de Shalchein de Parzala Betura de Hashura. Dieu les a enchaînés avec des liens d'acier dans la montagne de l'obscurité. Alors là, maintenant, c'est notre histoire. Ces fameux Néphilim, ils sont tombés, ils ont fauté, ils ont fait fauter les hommes, et maintenant, Dieu les prend, il les enchaîne avec des chaînes d'acier, et il les met dans un endroit qui s'appelle Touré des Hachoucha, et le Zohar continue, Be'an Atar Yadvé, et dans cet endroit, ils sont. Autrement dit, ils y sont encore. C'était ça que voulait dire le verset Gam Acharechen. Ils y sont encore. Be'amika des Touré, et ils sont dans les profondeurs de cette montagne. Alors, suivons un peu le Zohar. Et là, pour la première fois, on va distinguer entre ces deux anges. Dieu, il a pris le premier ange, qui s'appelle Asa, et il a mis de l'obscurité sur son visage. Parce qu'au moment où Dieu l'a attaché, l'a enchaîné, il s'est rebellé. Et Dieu, il l'a fait tomber dans la profondeur, dans l'obscurité, jusqu'à son cou. Et il a déversé de l'obscurité sur son visage. Ils avaient un problème avec l'obscurité, avec la lumière. La lumière et l'obscurité, le masculin et le féminin, ils ont fauté par le féminin. Ils sont maintenant plongés dans l'obscurité. Ça, c'est le premier. Et Azaël, le second, Delay Takaf, au TV Gabé. Et Azaël, qui lui s'était moins rebellé, il a été placé à côté du premier, Venaïr le Chashucha, et il éclaire l'obscurité. Sur cette question, il y a une discussion très intéressante entre Cordovero et l'Arizal, enfin par texte interposé, parce qu'ils sont pas, ils n'ont peut-être pas pu en discuter de cette manière-là. Cordovero dit, si c'est comme ça, hein, on a donc deux anges, et un qui s'appelle Asa et un qui s'appelle Azaël. Il y en a un qui a été plus virulent que l'autre. Alors celui-là, sa punition, c'est qu'il est complètement enfoui dans l'obscurité. Et on a un second qui s'appelle Azaël, et on entend bien qu'il y a un nom divin derrière, le Aleph Lamed, qui est derrière, et lui, il est là pour éclairer le second. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il s'éclaire et ils s'obscurcissent mutuellement dans l'obscurité. L'un est la lumière de l'autre, et l'autre est l'ombre de l'un. Ils sont complètement pris l'un dans l'autre. De ça, le Ramak dira, si c'est comme ça, le Asa, il est du bon côté, il est du mauvais côté, et Azaël, il est du bon côté. Le Arizal dira pas du tout. C'est le Azaël qui est du mauvais côté, et le Asa qui est du bon côté. Et du coup, il faudra l'écrire avec un Aleph, dit le Arizal. On l'écrira Aïn Zamel avec un Aleph, avec un E, pardon. Pourquoi? Pour des raisons très compliquées qu'on ne peut pas voir ici. Mais en tout cas, c'est clair que maintenant, leur problème était l'union du masculin et du féminin. Ces deux anges, quelque part, ils sont dans l'obscurité. Un, c'est l'obscur de l'obscur, et l'autre, c'est la lumière de l'obscur. Et l'obscur de l'obscur est là pour obscurcir la lumière de l'obscur, qui est l'obscur de la lumière. Voilà. C'est ça que Dieu nous doit. Maintenant, ils sont complètement l'un dans l'autre et l'un par rapport à l'autre. Parce que l'obscurité, dira le Rizal, c'est le miroir inversé de la lumière. Donc, celui qui est dans la lumière de l'obscurité, il est dans l'obscurité de la lumière. Et le Zohar continue. Au Béné Alma de Yadin Atraou, et maintenant les hommes qui savent où ils se trouvent, ils vont chez eux. Et ils sont là-bas pour enseigner aux hommes tous les secrets de la sorcellerie. Et quelles sont ces montagnes? Et ces montagnes, Veinun, Touré, Rachoucha, Ikroun, Arer et Kedem. Et ces montagnes, elles s'appellent les montagnes de l'antériorité. Quelle en est la raison? Parce que l'obscurité était précédée la lumière. Et à cause de cela, les lumières de l'obscurité s'appellent les lumières de l'antériorité. Et Lavan et Bilham ont été des élèves de ces anges. Et c'est pour ça qu'on a dit à propos de Bilham qu'il avait été dans les lumières de l'obscurité. Alors juste pour situer un peu dans la Bible, parce que là maintenant effectivement on voit ces personnages continuer dans la Bible, les deux grands sorciers décrits dans la Bible, Lavan et Bilham, ces deux grands sorciers de la Bible, Lavan et Bilham, tout ce qu'ils savaient, ils ne le savaient pas de nulle part. Ils l'ont appris chez ces anges-là. Alors on va prendre un verset, mais dans le verset tel qu'il se passe normalement, dans les nombres 23-4, on voit là-bas que oui, ils ont appris dans les montagnes du Kedem. Le Kedem, c'est l'Est. Il dit c'est pas l'Est ici, c'est l'antériorité. Ils sont remontés à l'antériorité. Or l'antériorité, vous allez me dire, mais c'est bien. Non, c'est l'antériorité de l'obscurité sur la lumière. C'est pas ça la bonne antériorité. Vouloir remonter à l'origine, c'est souvent remonter au mal. Or, ce qu'on veut dans la création, c'est pas l'origine, parce qu'effectivement, au début de la création, on va arrêter, et la terre a été tout évaporée. Ce qu'on veut, nous, c'est aller au but de la création. Et le but de la création, c'est la lumière. C'est pas l'obscurité. Et donc, Bilham, le fameux, celui qui va maudire Israël, ce Bilham qui va maudire Israël, il a appris chez ses anges. Mais le lecteur biblique qui a connu un peu la Bible, mais si on se rappelle bien l'histoire de Bilham, Bilham, on l'a appelé pour maudire Israël, et il est avec son ânesse, sa fameuse ânesse, ils sont en train de marcher sur le chemin, et qu'est-ce qui se passe? Il y a un ange devant eux. Et l'ânesse voit l'ange, et Bilham ne le voit pas. Alors le Zohar rebondit sur la question et dit « Mais tu es en train de me dire qu'ils ont été chez ces anges-là apprendre, il a été chez ces anges-là apprendre les choses. » Et le Zohar dira que c'est pas facile d'y aller parce qu'il faut passer des montagnes, il faut combattre des bêtes féroces et ils sont protégés par des bêtes méchantes et cruelles et maléfiques et il faut déjouer tous les maléfiques pour arriver chez les anges. Et là voilà. Il est face à un ange et il ne voit pas. Le Zohar dit, encore Rabbi Shimon, il a dit, attention, il y a ange et ange. Là-bas dans la Bible, c'est marqué Malach Hashem, c'est un ange de Dieu. Il y a la vision des anges de l'obscurité, il y a la vision des anges de la lumière. L'ange de Dieu, la nièce de Bilham, ne voit plus que lui. Les anges de l'obscurité, Bilham, c'est son. Il sait exactement comment ça marche. Et alors, Bilham était un personnage qui avait une grande vision. Et la Bible nous dit, un verset énigmatique, dans 24, dans le nombre, « Ne'um shomea imrehel veyodea ta'at elyon machaze shaday chezu nofel gilu inaim » Quand Bilham se présente, il te dit, et il dit, voilà le discours de celui qui a entendu les paroles de elle, qui connaît la sagesse supérieure, la vision de Shaddai, un nom divin, il verra, et il est prosterné et à yeux découverts. Rachid dira, il connaissait les moments de la colère divine. Il avait une connaissance du divin. Le Zohar va dire, il faut analyser ce verset. On va le relire. Ne'um shomea imre'el ve'yodea da'at elyon machaze shaddai cheze nofel uglu yenaim. Toutes les traductions qu'on a sont un peu embarrassées avec ce verset. Parce qu'on a l'impression qu'il dit « Je connais des choses supérieures et j'ai une vision du Shaddai. » Et la traduction de Cain dit « Il est prosterné et à yeux découverts. » Et Shouraki dit « Tombant, il découvre de ses yeux. » Il dit, voilà, j'ai une vision, je suis capable de voir des choses, j'ai accès au secret de l'invisible. Le soir va dire, il faut prendre le verset simplement. Mahazé Shaddai, j'ai une vision de Shaddai. Yichézé, je la verrai. Nofel ou Glouy Enaim, le tombant et les yeux dévoilés, ce sont Asa ve Azael. Ce qui est intéressant, c'est que on n'avait plus des noms, maintenant on a des actions. C'est quoi des actions? C'est qu'il y en a un qui tombe et il y en a un qui ouvre les yeux. Je suis tombé sur un midrash dont j'ai pas réussi à remonter la source, qui dit que, si vous vous rappelez bien, il y en a un qui s'appelle Asa et un qui s'appelle Azael, et celui qui tombe, c'est Asa. Et un midrash qui dit qu'il est tout le temps en train de tomber. Il tombe et il arrive à quelques téfards de la terre et il remonte. Il tombe et il remonte, il tombe et il remonte, il tombe et il remonte pour voir qu'il tombe et pour se voir en train de tomber. Il est dans une chute permanente. Alors que l'autre, il est là pour ouvrir un peu les yeux et pour pouvoir éclairer sa chute. Comme si le fait d'éclairer la chute, ça la rendait peut-être encore plus terrible, ou pas. Ils sont là, effectivement. Et il dit, mais c'était ça la vision que Bilam avait. Sa vision qu'il avait, il apprenait de ça. Autrement dit, on apprend de la chute ou on apprend de la hauteur. Ça va être la conclusion de Rabbi Shimon ben Yochai dans le Zohar qui dira que c'est pour ça que la seule chose qu'il savait, il savait que de ce côté-là. Il n'était pas capable de connaître de l'autre côté. Cordovero va poser une question. Il dit, mais pourquoi est-ce que finalement Dieu ne les a pas détruits? Pourquoi garder ces deux êtres mystérieux au fond du monde, dans des montagnes d'obscurité? Ils sont attachés parce qu'on ne veut pas qu'ils sortent. Ils apprennent aux hommes des secrets parce qu'ils étaient dans la proximité de Dieu. Le Zohar dira qu'ils pouvaient raconter à Bilam ce que Dieu leur avait dit, au moins la création de Dieu du monde. Pourquoi les garder? Pourquoi les garder comme ça? Pourquoi ne pas les avoir détruits comme les premiers? Pourquoi ne pas les avoir ramenés à leur origine de créature de feu? Pourquoi ça? Cordovero est un peu embarrassé et il va ramener trois réponses. Et il va dire, la première, c'est que pour ramener une créature à son origine, il faut qu'elle corresponde à son origine. Or, eux, ils sont mi-ange, mi-homme. Donc, ni la mort, ni le feu ne peut rien pour eux. Deuxième réponse, il dit, ils sont là comme preuve pour l'humanité. Ils sont là pour preuve comme pour l'humanité que quand on jugera l'homme à la fin des temps, Dieu dira, regardez, eux aussi, ils ont fauté, et je les ai laissés. Et troisième réponse, ils font partie maintenant des écorces du mal dans le monde, et ces écorces, elles ne pourront être abolies qu'au temps du Messie. Juste pour terminer, il y a un autre Zohar qui parle de ça, que très peu de gens ramènent. Il y a un Zohar magnifique dans Mishpatim où le Zohar raconte que le roi Salomon, qui connaissait tout ce qui se passait dans le monde, chaque matin il se levait, il inspectait les quatre coins du monde et il y avait un oiseau qui venait se mettre devant lui, et cet oiseau qui était le fameux Nesher, il prenait Shlomo HaMelech sur lui. Et avec le roi Salomon, cet oiseau et le roi Salomon, ils se promenaient dans le monde. Et ils inspectaient le monde, et tous les matins, ils allaient se promener, et le Zohar va dire comme ça qu'ils prenaient Shlomo Malka, le roi Salomon, et il lui disait, celui-là c'est Nofel, et celui-là c'est Giloïnaïm. Celui-là c'est Asa, et celui-là c'est Azaël. Donc ça veut dire que il y a évidemment quelque chose à apprendre. Mais cette chose-là, c'est partie de cette, de ce mystère du, de l'obscur et de la lumière qu'on peut apprendre sans tomber. On n'est pas obligé de tomber pour apprendre. Je vous remercie. Shavua Tov pour tout le monde. Ben, je voudrais évidemment remercier tout le monde. Pour ceux que ça intéresse, je peux avoir à disposition les références des textes que j'ai cités, qui sont des textes un peu compliqués. Et pour ceux que ça intéresse, il y a un très très beau livre sur tous les anges qui s'appelle Malaché Elion de Rav Reuven Margaliot, qui est une encyclopédie angélique qui ramène toutes les sources de tous les anges. Mais le plus beau des livres, évidemment, c'est le livre de Cordovero sur Drouche, Leinyan et Melachim. Et puis, évidemment, du Zohar, cette histoire de ces deux anges. Je vous remercie. Shavua Tov.